Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Ah, je suis content de voir que tu vas être avec nous, Daniel, dans le rassemblement. Moi, j'ai été un pasteur de jeunesse longtemps dans mon ministère, fait que j'aime ça et j'aime. Je souhaite que tu vas être béni autant que toutes nous autres. Père, merci pour ta présence, Seigneur, dans ce lieu qui fait toute la différence. Je prie, Seigneur, que tu m'accompagnes, Seigneur, que dans la mesure où c'est ta parole qui est prêchée, dans la mesure où ces paroles, Seigneur, viennent de la Bible, bien, que tu parles, Seigneur, que tu nous parles à nos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait au grand prêtre, qui était Aaron et à ses fils, il leur disait, Moïse a dit ceci dans Nombre 6, 22, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. » Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Un beau passage ici qui nous montre que dans l'Ancien Testament, parmi toutes les nations, Dieu s'était choisi un peuple, le peuple d'Israël, et le nom de Dieu était même mis sur eux autres pour qu'ils soient un peuple béni, puis qu'ils aillent, puis qu'ils bénissent les autres nations. Aujourd'hui, j'aimerais juste attirer notre attention que nous avons un grand prêtre dans les cieux. Son nom est Jésus. Il est venu comme un prophète. Il est présentement comme un grand prêtre dans les cieux et va revenir comme un roi. Et présentement, il est dans son ministère d'intercession puis il prie pour chacun des croyants parce qu'il a mis sur vous son nom. Il a mis le nom de son Père sur vous. Et donc, on a accès à la famille proche de Dieu. Quand on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, comme Amélia l'a fait le 10 décembre, on est devenus les membres de la famille proche de Dieu. Je vais vous parler de votre identité aujourd'hui. Qu'est-ce que votre identité? Bon, ça touche énormément. On revient toujours à l'identité. Peu importe, quand je regarde un problème dans le monde, on revient souvent à l'identité. Et par la grâce de Dieu, j'espère que je vais être capable de débunker. Débunker, ça veut dire trouver la fraude dans la façon que le monde pense. Okay? Je lui ai dit, on vient ici pour apprendre à penser contraire au monde, puis je pense qu'aujourd'hui, on va voir vraiment ça. Premièrement, c'est des mensonges qui sont liés à l'identité. L'identité, pourquoi? Bien, l'identité, c'est quoi? Est-ce que je suis Mexicain, Canadien, gars de construction, homme ou femme? C'est quoi qui dicte qui je suis? C'est quoi mon identité en tant que personne? C'est-tu le salaire que je gagne par année? C'est-tu ce que les autres pensent de moi? C'est-tu le fait que j'ai une vie qui est en règle puis que là, j'ai de la valeur parce que, tu sais, je fais des bons choix? C'est quoi qui dicte notre identité? Aujourd'hui, je vais parler de l'identité puis de la destinée. La première, qui est l'identité, c'est relié à la valeur que vous avez. Tu ne peux pas dissocier ton identité de la valeur que tu as. Puis l'autre, la destinée, c'est lié à tes choix. La première, qui est ton identité, c'est fixée par Dieu. Ta destinée est fixée par toi. Dieu a choisi de nous créer à l'image de Dieu. Il a dit littéralement, créons l'homme à l'image de Dieu. Et à cause de ça, il a attribué à chaque homme, chaque femme, jeune homme et jeune fille, une valeur inestimable. Une valeur à laquelle on ne peut pas prêter un prix. Et à cause de ça, c'est quelque chose à cause que Dieu nous a fait image de Dieu, il nous aime aussi de façon inestimable, donc on pourrait dire de façon inconditionnelle. Et donc, dès que Dieu t'a créé, il t'a créé avec une dignité et aussi une possibilité de la mettre à profit. Et c'est là que le bas blesse, c'est que même si Dieu a créé les hommes avec une telle valeur, tout le monde ne vit pas au meilleur de ce qu'ils sont, de la valeur qu'ils ont. On a tous reçu une valeur, mais il y a quelque chose qui fait défaut et on ne la met pas à profit. Et mercredi, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles, mais il y a tous les ordinateurs dans le monde avec le chip Intel ont tous un défaut. Puis n'importe quel hacker qui s'y met là, pourrait trouver ce défaut-là et avoir accès à peu près à toutes les informations qu'on a dans nos cellulaires et ordinateurs. Fait que là, ça panique. Là, tout le monde, les antivirus sont tous en train d'essayer de créer la patch pour essayer de bloquer cet accès-là. Parce que dans l'identité de chacun de nos computers, de nos ordinateurs, il y a une faille. Et donc, aujourd'hui, mon message, c'est « Sois la meilleure version de toi-même ». Et c'est un message d'une série de 1. Donc, je vais donner ma conclusion aujourd'hui. Et puis, mais je pense que ça va être vraiment un bon message pour chacun d'entre nous. Le défi aujourd'hui, être le meilleur, la personne meilleure que vous pouvez être en comparaison avec vous-même. Et donc, je vais parler de ces deux choses-là, de deux fondements qui sont importants. Le premier, votre identité. Deuxièmement, votre destinée. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit dire à propos de votre identité? C'est que votre identité est séparée de vos actions et de vos performances. Il n'y a rien que vous pouvez faire que Dieu va vous aimer plus. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire ou faire mauvais que Dieu va vous aimer moins. Et lorsqu'on découvre ça, on découvre une personne qui devient de plus en plus sécure, qui n'a plus besoin d'être sécurisée autant de l'extérieur pour savoir qui elle est. Ça fait partie de votre design, ça fait partie de votre construction. Vous êtes unique, il n'y en a pas deux comme vous. Et l'autre personne à côté de dire « Amen ». Phew! Non, c'est une joke. On est image de Dieu, on a la valeur en nous, puis on n'en a pas deux comme nous. On est unique et on est créé image de Dieu. Donc, connaître qui je suis va combler mes deux plus grands besoins, que chacun d'entre nous, nos deux plus grands besoins sont d'être important et en sécurité, dans la sécurité d'être aimé. Quand on ne connaît pas notre identité, on la cherche en dehors de nous. Par exemple, quand on est enfant, comment on a appris ça? Un enfant n'est pas capable de dissocier sa valeur de ses actions. C'est le parent qui va l'aider à comprendre qu'il n'est pas ses échecs et qu'il a une grande valeur même s'il n'a rien fait dans sa vie. C'est le parent qui va faire ça. À un moment donné, c'est la société. À un moment donné, c'est l'école. Ça va être les camarades de classe, ça va être les professeurs, ça va être notre société. Et à un moment donné, l'enfant, à un moment donné, il va commencer à comprendre où est sa valeur. Et malheureusement, il a souvent appris que s'il faisait bien, il recevait des félicitations, et quand il faisait mal, il se faisait donner des disputes. Ce n'est pas mauvais en soi, ça fait partie de l'éducation. Mais tranquillement, l'enfant, puisqu'il n'est pas capable de dissocier sa valeur de ses actions, et des fois, on va avoir des grandes attentes sur un enfant qui va réussir sa vie, qui va, tu sais, qui va avoir une bonne job. Puis on va mettre toute une pression sur cet enfant-là. Et l'enfant peut arriver à un endroit où il se voit plus comme un vase vide qu'on doit remplir plutôt que quelque chose qui a déjà une valeur et qui est déjà rempli. Donc, notre société, présentement, elle nous dit qu'on n'a pas de valeur quand on est né. Hein? On avorte, n'est-ce pas? C'est facile, hein? Je veux dire, tu peux rentrer un couteau dans une femme enceinte qui est rendue à 9 mois moins un jour, tu vas être puni pour le crime d'avoir blessé la mère, mais pas tué l'enfant, parce qu'il n'a pas vu l'air. Il n'a pas vu encore l'air. C'est dès qu'il voit l'air, l'oxygène, oh, là, c'est un humain. Là nous autres, on a décidé que c'est un humain quand il voyait l'oxygène. Mais il n'y a pas de valeur à la naissance, puis plus qu'il vieillit, plus qu'il grandit, plus qu'on met de quoi dedans. Ah, il commence à être éduqué. Ah, il commence à aller dans les petits récitals. Oh, il est sportif. Ah, il est drôle. Là. Puis là, il commence à apporter quelque chose aux autres. Mais jusqu'à l'âge de 18 ans, il nous coûte de l'argent souvent. Il est une dépense. Quand tu regardes des études sur la qualité de vie d'une personne, elle descend quand il y a des enfants, puis elle remonte quand ils sont rendus à peu près 18-19 ans, là, puis qu'ils commencent à prendre leurs ailes. Donc, c'est une dépense, c'est un poids pour notre société. Et donc, l'enfant, il peut se sentir comme un vase qui est vide et sans valeur, qu'il devra, au cours de sa vie, faire un bon métier, gagner de l'argent, être aimé par ses pairs, respecté. Puis là, il va commencer à ajouter de la valeur dans sa vie. Et donc, il agit et performe et s'aperçoit que ses pairs l'admirent ou le jalousent. Et il sent que sa valeur augmente aussi, mais quand il échoue, il se sent abandonné et sans valeur, et il peut perdre son identité. En fait, l'homme et la femme sans Dieu perdent nécessairement son identité. Dans mon message de la semaine passée, j'ai dit que si on n'avait ni créateur, ni juge, s'il n'y avait personne qui nous avait placés sur la planète, puis il n'y avait personne qui nous attendait après qu'on meure, notre vie était une histoire sans commencement ni fin, sans introduction ni conclusion, et que c'était à nous de développer notre identité et essayer de trouver pourquoi je suis sur cette boule verte et brune. Pourquoi est-ce qu'on est sur cette terre-là? Boule verte et bleue. Parce que brun, c'est pas beau. Donc, qu'est-ce que l'homme va faire? Il va essayer de se définir. Et là, on va avoir des toilettes transgenres. Tu sais, c'est plus gars, c'est plus fille, c'est pour pas blesser ceux qui se considèrent ni homme ni femme, on va faire des toilettes transgenres. Puis on va dire que le sexe, c'est pas quelque chose qui est défini physiquement, c'est quelque chose que tu peux définir. Tu sais. Si tu te fais couper un bras, on va t'envoyer en psychiatrie, mais si tu te fais couper les pfiou, puis tu te fais mettre des organes, là, on va dire il faut le respecter. Tu sais. Parce que le genre, c'est un choix maintenant. Mais ça, là, toutes ces idées-là viennent de ce qu'on a perdu nos absolus, puis on a aussi perdu notre identité, puis on essaie de s'en faire une. On essaie de se dire qu'on est quelqu'un dans ce monde-ci, mais on a perdu notre identité. Et donc, parce que l'homme, il se voit comme sans valeur, séparé d'avec Dieu, il a de la misère à dire à Dieu, « Hey, c'est-tu quoi, Dieu? » J'ai mangé du fruit, puis c'est de ma faute. Il n'est pas capable de faire ça. Pourquoi? Parce que le peu de dignité qu'il a, il se fait une feuille avec, puis il se cache. Il se cache avec des feuilles de figuier, puis il dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Pourquoi? Parce que s'il avoue ses torts, il est en train de dire qu'il est encore moins bon. Il a échoué, donc sa valeur va encore diminuer devant un Dieu qui est trois fois saint. Fait qu'est-ce que l'homme fait? Il ne s'assume pas. Et parce qu'il essaie de protéger son identité, il essaie quand même de garder sa réputation. Et donc, il y a un système dans le monde présentement qui est, tu es quelqu'un parce que tu fais ou qu'est-ce que tu gagnes, parce que tu accomplis, que tu rapportes. Et ce système-là, on a trois choix, on a trois possibilités de faire. On peut vaincre le système, on peut jouer avec le système ou on peut être vaincu par le système. Premièrement, vaincre le système. Si je vous disais les top performeurs, ce sont ceux qui sont à la tête des grandes entreprises, qui ont beaucoup de succès en affaires. Diriez-vous qu'ils ont de l'assurance en eux ou peu d'assurance en eux? Hein? Assurance. Un comme l'autre. Des études de Harvard, du Harvard Business University, a dit ceci. Il y a la première partie de l'article, l'auteur ici, qui s'appelle Thomas Chamorreau Permusic, dit qu'on va démystifier une fois pour toutes le mythe des top performeurs, de ceux qui sont à la tête, qui ont beaucoup de succès, que ce n'est pas leur assurance qui les place là, mais leur insécurité. Et là, on est là comme, hein? Oui. Il y a trois aspects qui ressortent de leur faible image propre et de leur manque de confiance en eux qui sortent. Premièrement, les gens qui ont une faible image propre et peu confiance en eux sont sensibles aux commentaires négatifs et se critiquent beaucoup. Ce sont des gens qui se critiquent. Ça pourrait être vu comme un symbole de force, tu sais, quelqu'un qui est prêt à regarder ses fautes, tout ça. Non, mais ils ont des doutes sur leur personne et ils savent que s'ils n'acceptent pas les critiques des autres, bien, les autres non plus, ils ne croient pas. Tu sais. Puis que, donc, ça peut amener beaucoup de gens ici sont vaincus par le système, là, parce que dans le fond, ils sont très sensibles aux commentaires négatifs des autres, mais quand ils ont un mélange avec une grande ambition, puis une sensibilité à ce que les autres pensent de eux, ces gens-là, ils réussissent à vraiment performer. Un autre aussi, caractéristiques des gens qui ont des top performeurs qui ont une pauvre estime d'eux-mêmes, c'est qu'ils ont besoin de travailler plus fort que ceux qui pensent qu'ils l'ont. C'est ceux qui pensent que tout est contrôlé, tout est sous contrôle. Fait que peut-être je vais juste rester un peu dans le premier. J'avais quelques notes ici. Les narcissiques, ceux qui se regardent dans l'eau puis qui vont se noyer parce qu'ils s'aiment trop, là, ceux qui sont comme Narcisse, qui est mort noyé dans une flaque d'eau. Ceux qui n'ont pas confiance en eux, ils savent qu'il faut qu'ils fassent comme, ils ont 10 % de performance, mais 90 % de préparation. Comme moi, par exemple, à l'école, puis Stéphanie, la même affaire, on est 46 ans, puis on est retourné à l'école, tu sais. Je te garantis, regarde le nombre d'heures de devoirs qu'on fait, là, je suis sûr qu'on manque de, pas de confiance, mais on dirait qu'il y a des chemins de neurones qui ne passent plus, tu sais, dans le cerveau, puis qu'il y a des départements qui ont fermé depuis 20 ans, tu sais. Il faut que tu rouvres ces affaires-là, tu sais. Fait qu'une faible confiance en soi. Donc, un peu de performance, mais beaucoup de préparation. Ils ont la recette de l'ambition plus la faible image propre. Et le succès, et l'article dit, le succès qu'ils récoltent devient la médecine de leur insécurité. Fait qu'à force de travailler fort parce qu'ils savent qu'ils n'y arriveront pas, ils réussissent à le faire. Oh, ils réussissent. Ça leur donne confiance en eux. Puis là, tranquillement, ils croient qu'ils sont capables. Mais ça ne part pas à partir d'une assurance. Ça part à partir d'une insécurité. Mais à force d'avoir remporté des petits succès, ils ont bâti des momentum. Puis là, bien, ils ont du succès. Puis ça les guérit d'une certaine manière dans leur identité. Ça vous fait travailler plus fort pour vous améliorer. Ça, c'est le point que j'ai apporté. Une personne qui n'a pas beaucoup confiance en soi et en ses capacités sait qu'elle va devoir travailler plus que les autres pour faire sa place. Et troisièmement, ça vous empêche de paraître arrogant et trop sûr de vous. Une personne qui travaille pour un patron qui est imbu de lui-même, qui sait tout, qui contrôle tout, et il s'est prouvé que 60 % des employés vont plus sur Facebook quand ils ont un employeur ou un boss qui est toujours sûr de lui, il a toujours toutes les réponses, il n'écoute pas les autres, il est toujours comme toujours au-dessus des autres. Fait que ces gens-là réussissent quand même à percer parce que les gens aiment ça travailler pour des patrons qui l'ont pas tout, qui n'ont pas tout saisi nécessairement et qui sont trop sûrs d'eux autres. Alors, c'est intéressant. On peut, dans le système de l'estime de soi, justement, jouer aussi avec le système. On n'est pas toujours au top de notre game. On n'a pas toujours des réussites. On réussit pas nos choix de vie. On échappe quelques-unes. Mais quand on est dans l'échec, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se cacher et parfois blâmer d'autres aussi pour nos échecs, un peu comme on voit dans le Jardin d'Éden. Puis quand on a des bons coups, ben on va espérer que les gens ont vu les bons coups qu'on a faits et il y a quelque chose qui crie, dites-moi que je vaux quelque chose. Regarde mes notes, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai réussi. Mais il y a, en arrière de ça, on joue avec le système un petit peu. C'est, dis-moi que j'ai de la valeur. Remplis mon vase pour que je me sente bien avec moi-même. Et ça, ça fait pitié. Ça fait pitié qu'on soit dans cet état-là parce que c'est une quête pour être aimé. C'est une quête pour exister. C'est comme si on disait, dites-moi que j'existe, puis dites-moi que je vaux la peine d'exister. Tu sais. Regardez ce que j'ai accompli. Dites-moi que vous êtes fiers de moi. Ou j'ai fait quelque chose, puis je mets mon espoir que les gens vont m'avoir remercié. Et donc, la personne qui met son espoir dans la louange qu'on peut lui apporter arrivera nécessairement à des grandes déceptions quand les faits ne seront pas reconnus, quand la personne ne sera pas estimée à sa juste valeur, par exemple. Et il y a des mariages qui s'effondrent juste sur ce principe-là ici, que dans ce système-là, je n'ai pas été reconnu. Est-ce que c'est bon la reconnaissance? Certainement. Est-ce qu'on devrait en donner? Certainement. Mais est-ce qu'on devrait s'en servir pour établir qui on est? Non. Si on fait ça, on mange au mauvais arbre. Si on fait ça, si on mange au bien de cet arbre-là, un jour, on va manger au mal de cet arbre-là aussi, parce qu'éventuellement, il y a des gens qui vont rire de moi. Il y a des gens qui ne me reconnaîtront pas. Il y a même des gens qui vont tourner le bien que j'ai fait puis vont dire que c'est du mal. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans ce temps-là? C'est juste une question de temps que si tu manges du côté bien de cet arbre-là, tu vas manger à un moment donné du côté mal de cet arbre-là. Puis Dieu dit, hey, sais-tu quoi? Confie-toi pas dans l'homme pour ton identité. Confie-toi en Dieu pour savoir qui t'es. C'est un système de la chute. Un système d'évaluation du bien et du mal séparé d'avec Dieu, et ce n'est pas le système du croyant. Parce qu'on est appelé à beaucoup plus que de vivre et de dépendre de ce que les autres pensent de moi. Puis, en tout cas, je vais en parler plus tard. Et être vaincu par le système, ça, c'est ceux, c'est des top performeurs, mais qui n'ont pas assez d'ambition. qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont une faible estime d'eux-mêmes si basse que même si tu dis « Hey, non, t'es capable, tu vas y arriver », ils sont tellement battus dans leur tête, ils ont accepté les mots qu'on a dit contre eux. Peut-être c'est un parent qui dit « Tu ne feras jamais rien de bon », c'est peut-être des jeunes à l'école qui ridiculisaient. La personne, elle ne croit même pas qu'elle peut même recevoir l'admiration ou de l'amour des autres. Ces gens-là sont souvent vaincus par le système. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est là que l'Évangile, elle vient. Puis Dieu, lui, ce qu'il propose, c'est de sortir du système. On est dans le monde, on va rester dans le monde, mais on va sortir du système d'évaluation de qui je suis. Puis on va en accepter un autre. OK? Et donc, la valeur n'est pas quelque chose que j'obtiens comme dans un vase que je dois remplir, mais c'est quelque chose que j'ai. J'ai déjà cette valeur-là. Et là, la bonne nouvelle vient et elle vient faire une division entre ce que j'ai fait, ce que les autres ont dit de moi, ce que je pense de moi-même et qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que lui, Dieu, il dit de ça. Regardez ce verset. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu, il nous aime, il veut une relation avec nous. Nous, on a dit non, on ne veut pas de ça. On a vécu dans le péché, on a continué. Et le passage ne dit pas « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous avons arrêté de pécher, qu'on est revenu à notre sens, puis qu'on a décidé que là c'était fini avec le péché, Christ est venu mourir pour nous. » Le passage nous dit « Quand on est encore des pécheurs, quand on est encore en train de pécher, Dieu, dans la personne de Jésus, est venu, puis il est venu mourir pour nous. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur. Même si tes choix ont fait que tu es peut-être sali. Merci, Gilles. Dieu dit, hey, on enlève la boîte, puis il reste encore quelque chose à l'intérieur qui est précieux, qui vaut la peine de mourir pour. Si tu veux savoir la valeur d'une chose, regarde comment quelqu'un est prêt à payer pour l'avoir. Quand Dieu a voulu te ravoir, qu'est-ce qu'il était prêt à payer? C'était le sang de Jésus-Christ sur la croix. Et donc, ça, c'est la valeur que nous avons dans le péché. Imagine-toi, depuis qu'on a accepté le Seigneur, on a péché un petit peu moins. Avant, on péchait quatre fois par minute. On pêche quatre fois à l'heure, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas attendu qu'on arrête de pécher, qu'il a dit, « Hey, sais-tu quoi? Il y a de la valeur dans ce bonhomme-là. Il y a de la valeur dans cette bonne femme-là, dans cette jeune femme-là. » Excusez, bonne femme, ça fait bonne femme. Hein? Donc, Dieu n'a pas dit, « Hey, je vais attendre qu'il ait... qui aient montré un petit peu de bonté, un petit peu de retenue, puis là, je vais venir mourir pour eux. » Parce que même si on a péché contre lui, lui, il n'a pas cessé de nous aimer et il est venu faire le nécessaire pour nous pardonner. Mais des fois, il y a des choses qui sont arrivées comme Dieu a chassé l'homme du jardin. Ça a l'air d'un manque d'amour. Mais quand tu regardes ça avec du recul, tu t'aperçois que s'il l'avait laissé dans le jardin, il aurait mangé de l'arbre de la vie, puis il aurait été séparé éternellement d'avec Dieu, il aurait vécu éternellement et il n'aurait jamais pu revenir, jamais, jamais, jamais en communion avec son Dieu. Et donc, quand tu regardes, tu dis, OK, Dieu est sévère. Il les a chassés de son jardin. Mais quand tu regardes tout, tu dis, non, 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 Dieu a un plan. Et son plan, c'est quoi? Je n'ai pas fini avec vous autres. Vous avez de la valeur. Je vais aller vous racheter avec un grand prix, le prix de son fils Jésus. Alors, d'un couvert de la Bible à l'autre, on voit que Dieu aime sa créature, même si nous, on le déçoit et souvent on le repousse. Ça ne change pas notre valeur. Et donc, c'est souvent dans les échecs qu'on découvre notre identité n'a rien à voir avec mon péché. Tu peux avoir accepté le Seigneur comme ton sauveur puis vivre comme le diable, ça n'a pas changé que Dieu il t'aime puis il veut plus pour toi que ça, mais ça n'a rien changé à son amour et à l'identité que tu as en tant qu'enfant de Dieu, par exemple. Et donc, déjà de comprendre, OK, je ne suis pas mes échecs. Ce n'est pas parce que j'ai échoué que je suis un échec. Je suis un succès, le succès de Christ, puis j'ai fait un échec. C'est correct. Mais déjà, ça m'aide. Dans Psaume 103, verset 10, c'est écrit, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. On est de la poussière. On fait des choix de poussière. On fait des choix d'en bas. Puis à un moment donné, psaume 119, il dit « Rends-moi la vie, détache mon cœur de des choses de la terre. » Et donc, on a un service, mais notre service n'est pas parfait. T'sais. Mais Dieu se souvient qu'on est poussière. Puis quand il confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner, les effacer. Et il nous rappelle que ça n'a pas changé notre valeur. Et donc, c'est à nous d'aller à Dieu pour trouver notre identité et ça va combler notre besoin d'importance et de sécurité. La fondation de ton identité, ce qui vient fonder comme une maison est fondée sur quelque chose de solide. La fondation de notre identité, c'est ce qui nous permet d'affronter un monde rempli de déceptions et de manque d'amour, rempli d'attentes qui sont déçues. Au psaume 27, par exemple, je voulais dire aussi que mon identité est indépendante de la manière dont on me traite. Quand quelqu'un a été maltraité, quand il était jeune, c'est dur de dire qu'il y a de la valeur. Tu le dis, puis c'est tellement ancré, ils ont tellement été traités comme des animaux ou des. Tu sais, c'est difficile. Vous avez juste besoin de parler avec des travailleurs sociaux, ils vont vous le confirmer. On tombe dans un mensonge quand on accepte que l'abus et la maltraitance, les paroles mauvaises à mon égard, ont réduit qui je suis. Et malheureusement, c'est ce qui quand même arrive. On finit par accepter que la manière dont on nous traite, c'est la valeur qui nous est restée. C'est pas vrai. Au psaume 27, le psalmiste, il dit « Des méchants pourraient s'élever contre moi, une armée campée contre moi, une guerre s'élever contre moi, j'aurais malgré cela confiance en Dieu. » Ensuite, il dit « Dieu est le soutien de ma vie. Mon père et ma mère m'abandonnent » au verset 10 « et l'Éternel me recueillera. » Qu'est-ce qu'il a compris? Que son identité ne vient pas juste du pays dans lequel il est né, dans la famille qu'il a eu, les parents qu'il a eu, mais même si son père et sa mère l'abandonnent, Dieu le recueille. Et c'est ça l'identité qu'on a, c'est qu'on fait partie de la famille proche de Dieu. Et donc, c'est incroyable. Et donc, la valeur n'est pas dans comment on me traite, n'est pas dans la famille dans laquelle je suis né. Mon identité, c'est que Dieu me recueille et c'est en lui que je mets ma confiance. Rien ni personne ne peut changer ça. Et donc, le psalmiste dérive son identité de ce que Dieu dit de lui et non de que les autres disent de lui ou ses propres parents. Notre identité doit être cherchée en Dieu. Psaume 62, verset 5. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. » Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Mais savez-vous quoi? Il y a des gens qui se tournent vers le mariage pour se sentir mieux à propos d'eux-mêmes. Voici une personne qui va me rendre heureux. C'est ça que les jeunes se disent. Ils se disent, ah, j'ai trouvé la personne qui va me rendre heureux. Et qu'est-ce qu'on veut leur répondre? Non, tu as trouvé quelqu'un par lequel Dieu va te sanctifier. Dan Allender a dit « Le mariage est la relation où la dépravation est la plus exposée. » C'est là que les défauts les plus vrais à propos de ton identité et les failles qui ont été brisées à la chute vont ressortir. Une autre a dit « Le mariage est l'opération par laquelle la vanité de la femme et l'égoïsme de l'homme sont extraits sans anesthésie. » Donc, Dieu dit, non, ce n'est pas une personne. Pense pas que si tu vas sortir avec un gars ou si tu vas sortir avec une fille, c'était ça qui te manquait pour être heureux. Ça, c'est la lune de miel, c'est les premiers moments. Mais une vie ensemble, c'est un endroit où Dieu va t'en montrer des choses concernant ta propre âme. Puis, il va venir faire des transformations dans ton cœur par rapport à cette autre personne-là. Est-ce qu'il va y avoir des bons moments? Oui. Mais de penser que c'est ce qui manquait à mon bonheur, non. Parce que notre bonheur vient de Dieu. Un mariage sur cinq ne t'offre pas 7 ans. Un mariage sur cinq ne t'offre pas 5 ans. Pourquoi? Ah, voici la personne qui manquait à mon bonheur. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me rapporte plus de bonheur. Il ne me rapporte plus de bonheur. Mon identité n'est plus aussi nourrie. On jette le pot de cheese whiz, on prend un autre pot de cheese whiz. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde. Mais nous, notre identité, c'est en Dieu. Et donc, je me laisse aimer par Dieu, je me confie en Dieu, j'aime mon conjoint. S'il ne m'aime pas, OK, je sais que mon identité, c'est ma relation avec Dieu. Et donc, ça fait une fondation pour ma vie. Dieu va utiliser le mariage pour nous montrer des choses à propos de notre âme et de notre besoin d'aller à Dieu. Et ça ne sera pas un moyen de trouver notre valeur, mais plutôt de révéler la valeur de l'autre. Si on veut être une meilleure version de nous-mêmes, il va falloir accepter qui on est et se laisser aimer par Dieu. Deuxième partie de mon message, notre destinée. Ça a rapport à l'honneur que Dieu veut te donner. Même si on est tous égaux à ses yeux, puis que même si on fait des choses extraordinairement grandes pour Dieu, on passe dans la machine, puis ça vaut la même valeur. Ce que je veux dire par là, si tu prendrais une machine à sous, ton 2 piastres, là, si tu l'as shiné, si tu l'as mis sur un trophée, quand tu le sors, tu le mets dans la machine, c'est marqué 2 piastres. Là, tu ne valais pas 2 piastres, mais vous valez tous la même valeur à cause de l'image de Dieu, puis parce que vous êtes unique. Par contre, les honneurs ne seront pas pareils pour personne. Pourquoi? Parce que l'honneur que Dieu veut te donner et me donner sont reliés à nos choix. Il y a des positions d'honneur, puis je ne parle pas nécessairement là, dans un gouvernement là, ou dans un stage. Là. Je parle d'une place où ce que Dieu veut t'élever. Ce n'est pas lié à ton identité, mais à tes choix. Si Dieu honore une personne plus qu'une autre, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il l'aime plus, qu'elle attire plus, qu'elle a plus de valeur. Donc, c'est vraiment important qu'on sépare ces deux sujets-là, mais c'est important qu'on les mette dans le même message. Parce qu'on veut devenir la meilleure personne, la meilleure version de notre personne. Et donc, on a besoin de voir ces deux sujets-là ensemble. Donc, ce n'est pas lié à mon identité, mais c'est lié au choix que je vais faire. J'ai dit au début de mon message que l'identité était donnée par Dieu, la destinée aussi. Par contre, la destinée, ce n'est pas juste ce que tu vas finir après quand tu vas mourir, c'est le reste de ta vie, la personne que tu vas devenir dans le monde, si on peut dire. Ça dépend de tes choix, même si c'est Dieu qui la donne. Dieu veut prendre la chance et l'opportunité de te louanger pour les bonnes shots que tu fais. Il veut te... Le Père qui te voit dans le secret te le rendra. Je t'ai vu. Personne ne t'a vu. Mais moi, j'ai vu ce que tu as fait. Puis je vais te promouvoir. Je vais te bénir. Je vais ajouter à celui qui a, on ajoutera même plus. Tu sais. Fait que Dieu, il veut faire ça. Dieu, il évalue chaque humain avec la même valeur. Il meurt pour tous les hommes, mais tous ne sont pas honorés par ce cadeau-là qui a été fait à la croix. 2 Pierre 3,9 nous dit que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Et il est patient parce qu'il veut que tout le monde accepte son offre. Mais il y a des gens qui choisissent d'ignorer l'Évangile et même s'ils ont une grande valeur, ils vont avoir une grande valeur en enfer. Leur destinée va être séparée d'un Dieu qui les aime et ça n'aura rien changé en leur valeur. Mais parce qu'ils ont choisi, et je disais ça à mon dentiste l'autre jour, j'ai dit, l'enfer est obligé d'exister si Dieu est amour. Je dis, bien oui. Je pense à ça. Dieu, là, s'il aime les hommes, ils veulent qu'ils soient libres. Ben, il dit oui. Est-ce que Dieu pourrait forcer à quelqu'un à rentrer au ciel sans son consentement? Il dit non. Ben, je dis, ça prend une place où ce que Dieu n'est pas. Il dit, j'avais jamais pensé à ça. Un homme choisit d'ignorer l'Évangile, se retrouve séparé d'avec Dieu, ça ne lui a pas enlevé sa valeur, mais sa destinée. Il s'est destiné à la séparation d'avec Dieu, alors que tout avait été fait, payé d'avance pour lui. Acte 13:46, il se juge indigne de la vie éternelle. Je veux aussi qu'on remarque qu'une fois qu'on a accepté le Seigneur, il y a de la place pour les honneurs, il y a de la place pour se féliciter, il y a de la place pour élever des hommes qui marchent avec Dieu, mais qu'on ne doit pas, nous, chercher l'honneur. On ne doit pas chercher ça parce que ce serait... On doit chercher les honneurs. On doit chercher les honneurs. Puis, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on est destiné à être honoré. On est destiné à être honoré et glorifié par Dieu. Vous dites, c'est quoi cette affaire-là? Si je vous disais qu'on n'a pas à chercher les honneurs, qu'on ne doit pas faire les choses pour l'honneur, je discréditerais même un des gros fondements de la motivation des chrétiens, qui est le tribunal de Christ. Une des manières que Dieu montre que tu as de la valeur, c'est que tu peux mettre ta valeur à profit. Une des manières que Dieu veut montrer que tu as de l'importance, c'est que ton identité, tu peux la vivre dans le monde, puis Dieu va te récompenser d'avoir vécu ça. Mais tu ne fais pas les choses... Oui, Dieu? Allô? J'écoute. Parle, ton serviteur écoute. OK. Je ne fais pas des choses pour devenir quelqu'un, mais parce que je suis quelqu'un, je peux mettre ça au profit puis être la meilleure version de moi-même dans le monde. Puis Dieu, il va me récompenser pour ça. Je ne vais pas lire les versets, je vais juste les écrire. Si vous voulez les prendre en note, dans 2 Corinthiens 5, 10, ça nous parle qu'on doit comparaître devant Christ pour recevoir selon le bien et le mal qu'on va avoir fait dans notre corps. OK? Quand que la mère de Jacques et de Jean ont demandé à ce que son fils, ses deux fils, soient assis à côté de Jésus quand il va revenir dans la gloire, Jésus dit, je ne suis pas moi qui décide, je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non, c'est mon Père qui va choisir comment il va honorer chacun. Hein? Donc, Dieu va honorer chaque personne selon les choix qu'il a fait. Et ça, c'est une question de justice. Parce que si, admettons, là, on est tous la même valeur, Christ est mort pour tout le monde, puis tout le monde, déjà, juste tout le monde va au ciel, ça ne marche pas. Parce qu'il y en a qui n'en veulent rien savoir de lui. Donc, une question de justice. C'est-à-dire que Dieu donne sa grâce à ceux qui s'humilient et résistent aux orgueilleux. Donc, une récompense à donner à celui qui l'a reçu, celui qui le rejette, il en est privé. Déjà, il y a une justice. Ensuite, Christ est mort pour nous, on devient chrétien, parfait, on va au ciel, mais moi, je vis comme le diable, puis vous autres, vous faites, tu sais, vous aidez votre prochain, vous êtes la meilleure personne de votre version possible. OK? Puis on arrive au ciel, puis c'est un communisme céleste. Tout le monde, celui qui a regardé de la pornographie, qui a vécu, comme je dis, le diable, puis là, oui, c'est sanctifié, tu sais, c'est gardé du péché, il est une bonne personne. Les deux arrivent égal. Ça ne marche pas. Déjà là, tu vois que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, puis Dieu est aussi juste. Donc, c'est une question de justice. Même si c'est par grâce que Dieu nous donne toutes ces récompenses-là, puis il aurait le droit, s'il veut, de faire ça. Une personne peut avoir dit Dieu m'aime, accepter ce qu'il a fait, mais pas obéir à ses enseignements, mais il n'aura pas la même récompense de la part de Dieu. Mais ça ne change en rien que s'il y en a un qui est récompensé peu, puis l'autre qui est récompensé beaucoup, que Dieu les aime de façon égale quand même. Mais il ne les honore pas de façon pareille. Décider d'être la meilleure version de nous-mêmes, avez-vous remarqué que dans mon titre, ce n'est pas « décide d'être le meilleur que les autres ». Dans mon titre, j'ai fait par exprès pour mettre « sois la meilleure version de toi-même ». Pourquoi? Parce que décider d'être une personne de bien, c'est une décision par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'année dernière, par rapport à où ce que je connais jusqu'à présent de Dieu, puis où ce qu'elle est ma marche avec Dieu, c'est moi avec moi-même. Ce n'est pas moi puis les autres. Puis, donc, la meilleure version de soi-même, parce que dans le monde, le bon est souvent un bon en compétition. C'est-à-dire que quand on commence à avoir quelque chose de plus que les autres, on s'enorgueillit par rapport à les autres. On commence à, mettons qu'on a travaillé fort pour avoir ce qu'on a, on va dire qu'il y en a qui ne travaillent pas fort pour avoir ce qu'ils ont. On va commencer à juger ceux qui en ont moins. Il y a souvent un bien contre les autres. On se regarde souvent par rapport à la moyenne pour voir où ce qu'on est par rapport à la moyenne, pour savoir si on est meilleur que la moyenne. Et donc, c'est un bien contre l'autre. Et même dans le Seigneur, il y a je baptise le mot « ministérite ». C'est quoi la ministérite? Nous, dans notre ministère, on a eu beaucoup de succès. On a fait ceci et cela. Et tu sais, je faisais partie d'un ministère avant, on était là, je l'entendais, puis c'est pas ici au Québec, c'était vraiment une fierté américaine qu'on avait là, tu sais, dans ce ministère-là. On a le message de la grâce. Tu sais, c'était quasiment comme si Dieu avait brandé le message de la grâce et avait dit, ça appartient à ce ministère-là, puis les autres séchés. Tu sentais vraiment comme, hey, on l'a, tu sais, c'est quand même une chance qu'on est dans le bon ministère. Tu sais. La ministérite. On fait ceci pour Dieu. On fait cela pour Dieu. On a un message qui est unique. Le problème avec la bénédiction, puis c'est vrai, hein, il y avait une partie de ce message-là qui était extraordinaire, puis il y en a un autre, c'était une cachette de voleur, littéralement. On n'avait pas le droit de se reprendre entre nous autres. Le péché n'existait pas. Puis si tu voulais me reprendre, passe par Dieu en premier. Il y avait comme vraiment une genre de... Le problème avec la bénédiction, c'est qu'on s'enorgueillit et on pense qu'on a comme quelque chose de plus que les autres qui nous élève par-dessus les autres. Alors que quand on a quelque chose de béni, c'est pour servir les autres. Ça va être pour vos notes personnelles. Proverbe 27, 2, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Un autre passage à prendre en note. C'est Matthieu 6, verset 1 au verset 6, Jean 5, 41, 1 Thessaloniciens 2, 4. Dans Matthieu 6, je vous résume, si tu donnes un aumône aux pauvres, fais pas sonner la trompette en avant de toi pour que les gens sachent que tu es en train de faire un don. Si tu donnes un don avec ta main droite, que ta main gauche ne sache pas. Si tu veux prier, fais pas des prières pour que les gens te voient, pour être vu des hommes. Fais-les, et ton Père qui te voit dans le secret de ta chambre, il va te le rendre. Et Dieu veut élever. Mais quand une personne s'élève, puis elle se fait un nom au travers des autres, il tire sa gloire des autres. Tirer sa gloire des autres, c'est j'ai besoin de me sentir quelqu'un. J'ai besoin de réussir pour que les gens disent que j'ai réussi à accomplir quelque chose. J'ai besoin d'une valeur personnelle, puisque je n'en ai pas, il faut que les autres m'en donnent une. Et donc, je vais performer dans le monde jusqu'à temps que les gens disent « Hey, c'est quoi Jean-Sébastien? Il y a quelqu'un quand même? Hein? » C'est comme « Wow, on veut suivre un homme comme ça. » Fait que là, tu es tout content, tu sais. Mais Dieu dit « Hey, ça t'a procuré de la joie? J'espère, parce qu'on n'en reparlera pas. » C'est comme si tu as eu ta récompense. Jésus va dire « Ils ont déjà leur récompense. » Si tu pries, puis les gens disent « Tabarouette, as-tu vu sa prière? Personne ne peut prier comme ce gars-là, tu sais. » Ben, tu l'as fait pour ça, Dieu dit, on n'en reparlera pas au tribunal de Christ, c'est réglé. Tu l'as fait pour être vu, tu as été récompensé. L'admiration trouvée parmi les hommes qui est déjà récompensée et on le fait pour ça, Dieu dit, on n'en reparlera plus. La gloire qui vient de Dieu, c'est celle-là que chaque croyant devrait attendre. C'était ça mon point précédent, à cette étape précédente, s'il vous plaît. Ah, j'ai un petit logiciel hein, pour mettre la souris sur l'écran tout le temps. La meilleure version de vous-même doit être approuvée par Dieu. Donc, ce n'est pas d'essayer de gonfler la patente pour montrer que je suis quelqu'un par les résultats que j'amène dans le monde. C'est une gloire qui ne tire pas sa gloire des autres. Hey, c'est dommage, bon. On va avoir la Sainte-Sainte ce matin, fait que je me suis mis 35 minutes. D'habitude, je prends 50 minutes. Fait que là, j'arrive vers la fin. Mais c'est tellement important. Quelqu'un qui veut vivre la meilleure version d'elle-même, elle n'est pas là pour épater la galerie. Elle n'est pas là pour montrer que nous autres, c'est big notre affaire, que moi, c'est big. OK? Elle tire pas sa gloire des hommes. Elle sait que dans l'Écriture, Dieu dit, « Si tu t'humilies, je vais t'élever. Si tu t'élèves, je vais t'abaisser. » C'est ça qui est écrit dans Jacques 4, 6, dans 1 Pierre 5, 5. « Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Quand on t'invite dans une place, assieds-toi pas en avant, assieds-toi en arrière. Attends qu'on dise « viens t'asseoir en avant », qu'on te dise devant tout le monde « hey, tu sais quoi, va t'asseoir en arrière, la place est à quelqu'un d'autre. » OK? Il y a une condition à la grâce, et c'est celle de s'humilier. Dieu donne sa grâce aux humbles, puis il résiste aux orgueilleux. Jésus a dit « je ne tire pas ma gloire des hommes, mais si, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas, mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Jésus dit « hey, je ne tire pas ma gloire des autres. » Autrement dit, Jésus n'a pas choisi un choix populaire. Il n'a pas choisi un choix qui amènerait bien, bien des milliers de disciples après lui. Dans Jean 6, il y a des milliers de disciples qui l'ont quitté. Il s'est tourné vers ses disciples et a dit « voulez-vous vous en aller, vous autres aussi? » Parce que Jésus n'est pas dans les choix de popularité. Il est « est-ce que je suis en train de plaire à mon Père? Est-ce que je fais présentement qu'on soit petit nombre ou un grand nombre? Parce que Dieu peut délivrer par un grand nombre ou par un petit nombre. Est-ce que je suis en train de plaire à Dieu? Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Quand je suis dans le secret de ma chambre, dans Psaume 101, verset 4, est-ce que je cherche à honorer le Seigneur? Est-ce que c'est ça que je veux devenir? Oui. » Alors Jésus, il y avait des adversaires contre lui. On le calomniait, je veux dire. Il passait pour un sorcier. Mais il dit, garde, hey les gars, on n'est pas ici pour se faire un nom, ni une tour de Babel. Mais il dit, je vois que vous tirez l'honneur les uns des autres. Il dit, quand quelqu'un vient en son propre nom, vous le recevez. Et aujourd'hui, en 2018, notre société aime ceux qui s'autoproclament. Regarder un premier ministre se prendre des photos de lui-même, être amoureux de sa propre personne. Puis qu'est-ce qu'on fait? Hey, il est comme nous, lui, il s'autoproclame. Pourquoi est-ce qu'on aime ça, des Donald Trump avec un grand toupet, qui n'a pas peur de ce que les gens pensent, puis qui fait la comédie, et continuellement la comédie? Pourquoi on n'est pas gêné d'avoir ça? On n'est pas gêné parce qu'on trouve qu'il est audacieux de s'autoproclamer, de se croire. Parce que notre monde, c'est une autoproclamation qu'on est des dieux. On aime ça, nous-mêmes être Dieu. On ne veut pas vivre pour un Dieu, on veut être un Dieu. Donc, il dit, quand quelqu'un s'autoproclame, vous l'acceptez. Mais il dit, moi, c'est le Père qui m'envoie, puis vous ne venez pas à moi. Jésus dit, moi, je ne tire pas ma gloire. Qui avait le pouvoir, les gens dans le temps de Jésus qui pouvaient le proclamer roi? Ou bien non, le Père, qui l'a vu comme un agneau qu'on mène à la boucherie, un homme qu'on faisait aucun cas de lui, il avait l'air de rien, il est mort sur la croix, il était enseveli, puis le troisième jour, il a été ressuscité, et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Philippiens 2:9. Qui avait le pouvoir de l'élever? Moi, je vous pose la question, qui a le pouvoir de nous élever? Qui a le pouvoir de nous bénir? Qui a le pouvoir de faire luire sur nous sa face, nous accorder sa grâce puis aplanir notre sentier? Nos amis? Ce que nos amis pensent de la religion? C'est le Père qui nous voit dans le secret, qui te voit aller à genoux dans ta chambre. Ça a l'air de rien, mais Dieu dit, hey, sais-tu quoi, je te l'ai vu dans le secret, je vais t'élever. Tu n'es pas là en train de te vanter tout le temps, en train de vouloir être le centre de l'attraction, je vais t'élever. 1 Thessaloniciens 2 au verset 4, très bon passage à lire. Paul dit que Dieu l'avait jugé digne d'aller annoncer la bonne nouvelle aux Thessaloniciens. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas plaire aux hommes, mais à Dieu qui sonde les cœurs. Il dit, quand on est allé chez vous, on n'a pas pesé sur le bouton, on est les autorités. Il dit qu'ils n'ont pas utilisé leur position d'apôtre. C'est-à-dire, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtre de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tellement vous nous étiez devenus chers. Ça, c'est une belle version de vous-même. C'est quoi? C'est-tu quoi? On n'est pas là pour paraître grand à personne. On n'a pas besoin d'être admiré par personne. On a besoin que les gens savent que Dieu les aime comme une mère aime ses enfants. Hein? Et donc, Dieu dit, « Hey, Paul, tu es digne d'y aller. Tu es digne d'y aller. Sais-tu quoi? Tu n'es pas en train d'essayer de faire une grosse affaire avec ça. Tu n'es pas en train d'essayer d'utiliser ton autorité. Tu veux les aimer comme une mère aime ses enfants. Vas-y, mon gars. T'es. La grandeur ne passe pas par le prestige et l'admiration. Dans le royaume de Dieu, dans le monde, c'est ça. Ils sont grands et ils vous dominent. Mais Jésus dit, si vous voulez être grand, là, il faut que vous soyez au service des autres. C'est par le service qu'on reconnaît la grandeur d'une personne. Si tu commences à servir dans ton mariage, si tu commences à servir dans ton milieu de travail, si tu commences à servir ton prochain, Dieu va dire, voici une personne grande. Pas aux yeux des hommes. Mais Dieu dit un jour, il va t'élever, par exemple. C'est comme si Dieu disait, t'as fait, tu veux les faire les choses par amour, je vais pouvoir passer au travers de toi. Galates 1, 10, la même affaire. Tant que Paul, il voulait être fier puis être reconnu, il était un meurtrier des chrétiens. Hein? Il était le zélé, les plus zélés de sa génération. Mais il dit, quand il plut à Dieu de révéler en moi son Fils. Là, il dit, je ne voulais plus plaire aux hommes, je voulais plaire à Dieu. Je finis avec ce passage-là dans 1 Corinthiens 4:5 pour votre lecture. « Ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui va mettre en lumière ce qui est caché et qui va manifester les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Ta destinée à toi, c'est de mettre ton identité en valeur. C'est de vivre la meilleure Amélia, le meilleur David, le meilleur Daniel que tu peux être, pour qu'un jour Dieu puisse dire, pendant ta vie, that's it, c'est ça. Ça fait révéler la vie de mon fils. Je vais te bénir. Je vais l'élever et s'humilier. C'est ça ton rôle. Ton rôle, c'est d'être la meilleure version de qui tu es appelé à être parce que tu as déjà cette identité-là. Non pas pour être approuvé par les autres ou par Dieu, mais parce que Dieu t'a déjà donné une identité et une grande valeur que tu peux mettre à profit dans le monde. Puis un jour, les desseins des cœurs vont être montrés. Fait que quand tu brossais à la toilette, puis que ça puait, puis que personne ne te voyait, personne ne savait que tu l'as fait, Dieu a vu. Ça. Sais-tu quoi? Les hommes ne t'ont peut-être pas reconnu à ta juste valeur. Ce n'est pas terminé. J'ai besoin de te dire aussi que ça a de la valeur ce que tu as fait. Donc, résumé de mon message aujourd'hui, puis on va se préparer pour la Sainte-Cène. Ton défi et le mien, c'est d'être la meilleure version de toi-même, pas meilleure que personne. La meilleure version, la meilleure Stéphanie, la meilleure Éric. Le meilleur Jean-Sébastien, la meilleure version de toi. Pour le faire, on a vu dans le message que tu as besoin de comprendre profondément ces vérités-là, c'est que tu es déjà quelqu'un. Le monde dit qu'il faut que tu deviennes quelqu'un. Je veux dire, je regardais Jumanji, puis il y a trois fois, j'ai pensé à aller m'entraîner. Le gars, il y a des gros pipes, tu sais. La petite fille avec son petit nombril toujours à l'air, tu sais, j'imagine que les filles devaient dire « t'es pas aussi sexy qu'elle ». Moi, en tout cas, ça me disait, t'es pas assez bâti, tu sais, il faudrait que tu te fasses un. Il faudrait que tu t'entraînes, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je veux dire. Puis là, t'es là. Plus tu regardes le film, plus tu réalises que ta vie n'est pas plate, dans le sens que, tu sais, mais c'est comme si, ah, c'est ça, la vie, c'est d'être fort. La fille, la vie, c'est d'être sexée. Puis à chaque fois qu'elle reçoit un look d'un homme, elle sent qu'il y a quelqu'un. Non, ça, c'est le monde. On s'en rend pas compte, mais on regarde des films, on est dans la société, puis on a toujours. Puis on regarde Facebook, puis on regarde ceux qui ont une vie. Ah, tiens, il se passe ça dans sa vie. Ah, il se passe ça dans sa vie. Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de vivre la meilleure version de notre vie, on est en train de vivre la vie des autres par procuration. Tu es quelqu'un sans avoir levé le petit doigt en dehors de ce que tu as fait, de tes performances. Tu es quelqu'un même si tu as échoué. même si tu as échoué, même si on t'a méprisé, maltraité pour Dieu, ça n'a pas changé ta valeur. Et ça, ça a besoin d'être enraciné dans notre vie. Tu n'as pas à devenir un vainqueur, un joueur, un héros. Tu n'as pas besoin que les gens t'admirent. Tu n'as pas besoin d'être vaincu par le système non plus, d'essayer d'être irréprochable tout le temps. Pourquoi? Ben, crème, c'est parce que si j'avoue que j'ai des torts, je vais encore plus baisser. T'sais. Non, tu peux commencer à dire « je suis désolé, pardon ». C'est quoi une personne qui est capable de dire « je suis désolé »? C'est vrai que j'aurais pas dû dire ça. Elle est en train de dire « j'ai fait ça, mais ça ne touche pas à mon identité ». Puis vous allez avoir des échecs, puis vous allez être obligé d'aller les avouer des fois, que ce soit en affaires, à l'école, en n'importe quel domaine, vous allez être obligé de dire « c'est-tu quoi? » Ça, c'est moi. Mais même si on vous estime moins, après, votre valeur n'a pas changé. Ça, c'est super important. Vous n'essayerez pas d'être aimable. Tu sais, la personne qui essaie toujours d'être aimable pour être sûre de ne pas perdre aucun ami? De plus en plus, tu dis quoi? Il faut que je dise ça. La vérité blesse. Il faut que je le dise. C'est le temps. On est rendu là. Il faut qu'on en parle. Ouais, mais il ne va peut-être plus m'aimer après. Je sais qui je suis. Donc, je peux aller dire à l'autre qu'est-ce qu'il en est aussi. Vous allez arrêter de cesser d'être quelqu'un par vos accomplissements ou vos possessions, parce que vous savez que vous êtes quelqu'un, parce que Dieu vous a créé unique à son image et vous pouvez sortir du système sans avoir rien à prouver à personne. Puis, dernièrement, tu as une destinée. Dieu, il me promet à moi et à toi qu'il va nous élever si on ne cherche pas à nous élever. Si on ne cherche pas à s'élever, il va nous élever. Dieu promet qu'il va révéler en nous son Fils si on veut lui plaire et qu'on est appelé un jour à partager la gloire de Dieu au ciel. Pourquoi on va être récompensé? Puis qu'on va avoir une gloire éternelle? Parce qu'on va avoir cherché sur terre à vivre la meilleure version de nous-mêmes. Mais il y a une patch. Comme la chip Intel, il y a une patch. Il y a un défaut dans notre chipset, dans notre puce. Comme la chip Intel, là, des ordinateurs. Hein. Dieu veut envoyer une patch. Et la patch, c'est de réaliser que notre identité vient de lui. Et on va vivre de toute parole, puis on va faire comme c'est écrit dans Michée 6:8. Dieu qui dit, on te fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Alors, c'était ça mon message. On va fermer les yeux ensemble. On va fermer les yeux ensemble. Puis mon appel, ça s'adresse à tous et chacun. Mais premièrement, il va s'adresser à une personne qui est soit sur enregistrement, soit ici, n'est pas sûr que s'il meurt, il va au ciel avec Dieu. Ce matin, tu as entendu que tu as une telle valeur que Dieu a donné son Fils pour toi sur la croix. Qu'il a été puni à ta place pour que tu ne sois pas puni et que tu puisses aller au ciel avec lui. Il en va de toi à choisir ta destinée. Dieu dit que si tu acceptes ce qu'il a fait et qui il est, tu vas avoir une destinée de la vie éternelle. Si tu rejettes ce qu'il a fait ou ce qu'il est, tu vas simplement continuer. Et il y a une place qui s'appelle la séparation éternelle d'avec Dieu et par respect, Dieu va te laisser choisir cette destinée-là. Alors aujourd'hui, si l'Évangile pour toi est clair et que tu veux accepter l'offre qui t'est faite, prie avec nous cette prière qu'on va répéter ensemble par courtoisie. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que tu m'aimes tellement que tu es mort sur la croix pour être puni à ma place. Merci d'avoir payé ma dette pour me recevoir au ciel. Je crois que tu es ressuscité et que tu me prépares une place. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Seigneur, si quelqu'un a fait cette prière-là pour la première fois, soit par enregistrement, soit parce qu'il est ici, et qui a compris cette transaction-là. Je te prie, Seigneur, de venir convaincre son cœur qu'elle t'a reçu, qu'elle a une très grande valeur, non pas parce qu'elle l'a accepté, mais parce que tu es mort pour elle et qu'elle a reconnu que tu as payé ce prix-là pour elle. Et je te prie de la combler, le combler de ta paix et de ta joie par le Saint-Esprit. Amen. J'aimerais aussi appeler chaque personne. Présentement, es-tu en train de vivre la meilleure version de toi-même? Et normalement, honnêtement, on devrait peut-être être comme le gars dans Luc 18 qui se frappe à la poitrine puis qui dit à Dieu, « Sois apaisé envers moi. Donne-moi ta grâce. Donne-moi ta miséricorde. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à marcher plus humblement avec toi. » Si tu es là et tu dis, « Mais moi, je jeûne deux fois par semaine. Je ne suis pas comme les autres. » Si tu es au-dessus de tes affaires, peut-être que c'est juste... Peut-être que tu as besoin d'une patch. Tu as besoin d'un petit reset. Mais si tu... Peut-être ce matin, juste prendre un... Où est-ce que tu en es, tu sais? Est-ce que tu vis de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Est-ce que la dernière fois que tu as ouvert la Bible, c'est quand tu es venu à l'église la dernière fois? Est-ce que tu vis de la parole de Dieu? Est-ce que tu la laisses être ta diète quotidienne afin que tu puisses avoir une foi qui augmente et que tu deviennes la meilleure personne que tu es appelée à être? Est-ce que tu fais des choses parce que tu veux être vu ou aimé des gens? Est-ce que tu cherches l'amour des gens parce que tu as une faible opinion de toi-même? Si c'est le cas ce matin, cherche plus. C'est Jésus qui veut te combler cette partie-là de ton cœur. Si tu penses que parce que tu as échoué, parce qu'on t'a maltraité, parce qu'on t'a crié des bêtises ou qu'on a dit des choses mal de toi, tu as fini par accepter que tu étais juste un balayeur. Mais accepte aujourd'hui que ce n'est pas le cas pour ton Dieu, qui t'aime profondément et qui voit en toi une grande valeur. Peut-être que tu as des péchés qui ne sont pas confessés, que tu dis, « Ah, moi, tant qu'elle n'a pas changé, ben je continue. » La Bible a dit de se confesser à date. Elle a dit de confesser ton péché puis de l'abandonner. De trouver de l'aide pour l'abandonner. Mais de devenir la meilleure version de toi-même, c'est aussi d'avoir besoin d'aide. C'est d'aller chercher l'aide que tu as besoin. Si tu n'es pas confessé à date, tu peux simplement confesser, nommer ton péché par son nom, dire que tu as fait ça, puis de dire, reconnaître à Dieu que c'est péché, puis d'accepter son pardon. Et il va te laver complètement. Il va te rendre capable de marcher dans sa grâce. On va prendre le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est qu'est-ce que ça dit? Quand tu prends le pain, tu prends le vin, tu es en train de dire, je ne m'appartiens plus moi-même. J'ai été racheté à un grand prix et je veux glorifier Dieu dans mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Le repas du Seigneur, c'est aussi l'annonce que Jésus va revenir, puis il va nous racheter, il va nous prendre, puisqu'il nous a rachetés, il va nous prendre avec lui. Et ça l'annonce qu'il va venir nous chercher. Alors, si tu reconnais qu'il a payé pour toi et que tu ne vis plus pour toi, mais pour celui qui est mort et ressuscité, même si tu ne le fais pas de façon parfaite parce que tu es de poussière, comme la version a vu, mais que tu veux de plus en plus marcher comme étant la propriété de Jésus, ce repas-là il est pour toi. Sinon, tu fais juste passer au suivant. Et tu prends le temps d'y réfléchir. C'est important parce que Dieu y voit, puis Dieu il va corriger quelqu'un qui le fait, mais qui ne veut pas marcher avec lui. Fait que tu es mieux d'attendre, mets-toi en règle, puis après ça, tu le prendras une autre fois. OK? Fait qu'on merci Seigneur pour ce repas, puis durant le repas, ce qu'on va faire, on va avoir un chant, puis après ça, on aura des gens qui pourront prier. Là.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.org.